Chapitre 4. En quelle mesure Montesquieu a-t-il pensé qu'il existe des lois déterminées des choses sociales? Allons plus loin. Montesquieu ne se contente pas de classer les sociétés par type. Il estime que les faits sociaux, et principalement ceux dont il parle de façon spéciale, à savoir les lois, obéissent à un ordre déterminé et sont par suite susceptibles d'une interprétation rationnelle. Cette idée apparaît dès le début du livre où l'on trouve la célèbre définition « Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. » Car cette définition embrasse non seulement les lois de la nature, mais aussi celles qui régissent les sociétés humaines. Auguste Comte a accusé Montesquieu de s'être ensuite détourné de ce principe, de telle sorte qu'on ne pourrait découvrir aucun ordre dans la masse des faits accumulés dans le reste de l'ouvrage. Mais cette accusation s'écarte de la vérité. En effet, chaque fois qu'il s'agit de quelque loi, Montesquieu nous la montre dépendant de conditions déterminées. Ces conditions sont de deux genres. Les unes sont inhérentes à la nature des choses auxquelles la loi se rapporte, à la nature du commerce, si elle a trait au commerce, à celle de la religion, si elle concerne la religion. Mais il y a une autre cause qui étend son action bien plus loin et qui prévaut sur les autres. C'est la nature de la société. La plupart des lois, comme nous l'avons déjà dit, ne peuvent être les mêmes en monarchie qu'en république ou sous le gouvernement despotique. Chez les peuples inférieurs, elles font complètement défaut. Qu'un peuple soit de tel type ou de tel autre, et un système unique de lois s'ensuit nécessairement. Montesquieu remonte même encore plus loin la série des causes et des effets. Il ne se borne pas à montrer que les lois dépendent de la forme des sociétés. Il recherche aussi les causes dont dépendent les formes de société elles-mêmes, et parmi ces causes, celle qui joue le premier rôle, c'est le volume de la société. Supposons en effet une société resserrée en d'étroites limites. Il n'est personne qui n'ait continuellement les affaires de la communauté sous les yeux et tout entière présente à l'esprit. De plus, les conditions de vie étant à peu près les mêmes pour tous, car dans une telle société, la place même manque pour leur diversité, le genre de vie, lui non plus, ne peut guère différer. Même ceux qui détiennent le pouvoir n'étant investis que d'une puissance limitée, en rapport avec les limites de la société, ne sont que des primi inter pares. L'image de la patrie n'est pas seulement sans cesse offerte à l'esprit de tous, elle a en outre une force très grande parce qu'elle n'est bornée par aucune autre. À cette disposition, l'on reconnaît la République. Mais si la société s'accroît, tout change. Car il est déjà plus difficile pour chaque citoyen pris individuellement d'avoir le sentiment du bien public. Il n'aperçoit qu'une petite partie des intérêts de la société. L'environnement étant d'autre part beaucoup plus différencié, pousse les individus à s'orienter de côtés différents et à se porter vers des buts opposés. En outre, le pouvoir souverain devient si grand que celui qui l'exerce domine les autres de très haut. C'est pourquoi la société passe nécessairement de la République à la monarchie. Mais si son volume au lieu d'être moyen est excessif, la monarchie se transforme en gouvernement despotique. Car un empire immense ne pourrait subsister si le prince ne possédait un pouvoir absolu lui permettant de maintenir unis des peuples dispersés sur une si grande étendue. Si étroit est le lien entre la nature des sociétés et leur volume, que le principe propre à chacune est détruit, si la population s'accroît, ou si au contraire, elle diminue outre mesure. Certes, ici bien des objections doivent être faites. Innombrables sont les peuples qui, tout en ne possédant qu'une grandeur moyenne ou même restreinte, vivent soumis à des despotes. D'autres, comme le peuple juif, bien qu'ils surpassant de beaucoup en grandeur les cités grecques et italiques, présentent cependant une certaine forme d'organisation démocratique. En outre, dans l'explication elle-même, si l'on descend au détail, on y découvre parfois quelque chose d'incertain et de vague. Il n'en est pas moins vrai que Montesquieu a fait preuve de perspicacité en attribuant au nombre des unités sociales une telle influence. C'est en effet cette cause qui a l'importance la plus grande pour la définition des choses sociales. Bien plus, nous croyons qu'elle est en quelque sorte la source d'où émanent les principales différences entre les sociétés. Selon que les habitants sont rares ou au contraire nombreux, la religion, la famille, la moralité, le droit, etc. ne peuvent être les mêmes. Un seul point a échappé à Montesquieu, c'est que l'important n'est pas le nombre qui sont soumis à la même autorité, mais le nombre de ceux qui sont liés entre eux par quelques relations. Car si nombreux que soient ceux qui obéissent au même chef, si la distance entre les uns et les autres est telle qu'il ne puisse y avoir entre eux que des relations nulles ou rares, l'abondance de population est sans effet. Au reste, à cette cause, Montesquieu en ajoute plusieurs autres qui ne sont pas sans influence par elles-mêmes pour la constitution des sociétés. C'est sur elles qu'ont surtout porté les commentaires des interprètes. C'est ainsi que la nature du sol, lorsqu'elle consiste en vastes plaines d'un seul tenant, favorise la constitution de l'État despotique pour cette raison que de grands empires peuvent plus facilement s'étendre dans de tels territoires. Au contraire, les régions montagneuses ou les îles sont les citadelles de la liberté parce que l'autorité du chef est comme brisée par les montagnes ou par l'océan. Ce n'est pas seulement la configuration du sol, mais aussi sa nature qui est à considérer. Une terre peu féconde pousse les esprits à l'effort et à la frugalité, et par suite fraye les voies à la République. La fertilité du sol, au contraire, qui éveille l'amour des richesses et le souci de l'intérêt personnel, les ouvre à la monarchie. Si elle est excessive, elle convient aux formes intérieures de la démocratie, car les terres produisant naturellement n'ont pas besoin d'être cultivées, ni par suite d'être partagées entre les membres du groupe. Enfin, un climat chaud effémine les esprits et les corps et force les hommes à la servitude. Ces mêmes causes ne déterminent pas seulement pour une part la nature de la société et toute sa structure juridique prise dans son ensemble, mais même les lois particulières dans leur contexture propre. Ainsi, une chaleur excessive engendre l'esclavage civil, la polygamie et beaucoup de coutumes domestiques. La nonchalance de l'esprit et du corps qui s'ensuit produit l'immutabilité des lois, des pratiques religieuses et des mœurs. Pour les mêmes raisons, la nature du commerce est autre en Orient qu'en Europe. Quoique Montesquieu n'ait pas placé ces dernières causes sur le même rang que la première, et qu'il ait reconnu lui-même qu'elles dominent seulement chez les peuples sauvages, on doit avouer que leur influence n'a été nulle part aussi grande qu'il l'a pensé. La vertu domestique, politique et privée se rencontre également dans des pays qui diffèrent du tout au tout par la nature de la terre et du climat. Mais quoi qu'il en soit, cette exagération même montre combien Montesquieu a eu le sentiment que les choses sociales sont soumises à des lois déterminées. Tout ce qui précède, si on le résume en quelques mots, se ramène en effet à ceci. De la grandeur d'un peuple, de la configuration du sol qu'il occupe, de la nature de la terre et du climat, on peut déduire à quel genre appartient cette société et quelles sont ses lois et ses institutions. Mais nous n'avons mentionné qu'une partie de la doctrine exposée par Montesquieu dans son livre. Voyons-en maintenant une autre qui semble contraire à la première. Cette contradiction mérite d'être examinée à fond. Elle nous permettra de mieux comprendre non seulement quelle est la vraie pensée de notre auteur, mais aussi quelle difficulté à rencontrer, au siècle de Montesquieu et même à notre époque, la constitution de la science sociale.